A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Sachant qu'en plus, en ce moment, je suis en gros questionnement de est-ce que je continue le drag ou pas.
Dans cet épisode de la Quinterview.
Parce que j'ai un peu de mal en ce moment avec ce milieu. Je sais pas si je suis vraiment drag. Je pense que je fais du drag, je ne sais pas.
La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste qui a fait de la photographie son art à travers ses clichés. Yael aime déranger, interroger et provoquer. Depuis petit, Yael a fait de sa singularité une force et n'a jamais voulu rentrer dans aucun moule. En plus de la photo, le lip-sync est son arme de destruction massive. Certains le trouvent sous son nom Out of Drag, car ça fait très peu de temps qu'il a trouvé son nom drag. Bienvenue pour ta Quinterview, Edith Fiat.
Hello bitches.
Toi-même, est-ce que tu es prêt pour ta Quinterview?
I'm ready for the show, bitch.
Trop bien. Quels sont tes pronoms? Comment je m'adresse à toi?
Comme tu veux, il, elle, eux.
Très bien. Dans un premier temps, donc avant de parler à Edith, je voulais m'adresser à Nathan, Seleghini, Nathan, le photographe émérite. Où est-ce que tu as grandi et d'où est-ce que tu viens?
Alors, il faut savoir que je suis Lorrain, donc du coup, les quiches lorraines, les vaches, tu connais?
C'est vrai, t'es très quiche lorraine.
Très quiche lorraine.
Même aujourd'hui, dans ta vie, c'est vraiment... est-ce qu'il existe une semaine sans quiche lorraine?
Non, en vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ça me manque un peu.
Ça, c'est quand tu vas chez tes parents, c'est quiche lorraine?
Vraiment, je mange chez mes parents, mais ça, je ne mange pas.
Ah.
La pauvreté.
Bah non, mais tu manges des princes.
C'est très bien. Le sucre est ma vie.
Donc t'as grandi en Lorraine. Donc tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? C'était quoi un peu le milieu dans lequel t'as grandi?
Alors du coup, il faut savoir que mes parents sont pâtissiers boulangers. Donc j'ai toujours très très bien mangé. C'était très 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 bon. Ils sont pas mal connus en Lorraine en vrai. C'est de père en fils en fait, la boulangerie. Donc j'ai toujours vécu là-dedans. Et du coup, ma mère était vendeuse au guichet. C'était très, très cool.
Ok. Voilà. T'as passé beaucoup de temps, du coup, dans la boulangerie?
Énormément de temps. C'était juste en face de chez moi. Donc, dès que je pouvais y aller, j'y allais. Mes parents n'étaient pas beaucoup à la maison. Donc, je passais souvent faire des petits coucous.
Oui, donc c'est ça. C'est le rythme un peu de la nuit. Donc, j'imagine ton père qui se levait tôt, ta mère qui se levait tôt aussi. Il a fallu devenir, indépendant assez rapidement. Vous, en tant qu'enfant, être très organisé pour aller à l'école.
C'était un peu compliqué dans le sens où j'en ai beaucoup voulu à mes parents au début, hein, du coup, de pas être là. C'était vraiment 3h du matin et sieste l'après-midi. Donc, je voyais pas mon père. Et puis après, c'était jusqu'à 20h et... Ma mère, jusqu'au soir, c'était « je fais la caisse », etc. Donc, vu que c'était leur propre boulangerie, du coup, et ils en avaient deux à la fin, donc c'était un peu compliqué. Mais Bon, après, j'ai toujours fait avec. C'est mon quotidien, donc en vrai, voilà, ça m'a jamais trop gêné non plus. Au début, si. Après, j'ai compris que c'était OK, quoi.
Et c'est quoi ton pain préféré ?
Mon pain préféré, j'aime bien toutes les baguettes, hein, vraiment. C'est incroyable. C'est, je pourrais me tuer pour du pain, en fait. Là, bah, du coup, Warren, mon coloc, qui m'a ramené du pain, je suis très content. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé.
Alors, tu es plutôt baguette bien cuite, baguette pas trop cuite. Je sais que c'est un peu comme pain au chocolat, chocolat.
J'aime bien quand ça croustille, ouais, vraiment.
Donc, ça veut dire bien cuite ?
J'aime bien quand ça croustille. Apparemment, c'est pas très bon pour la santé, mais j'aime bien quand ça croustille.
Mais non, mais franchement, c'est trop sympa. Le charbon, c'est super. Et moi, je suis team pas trop cuite.
Team pas trop cuite.
Ouais, team pas trop cuite.
La mi-molle, quoi.
Oui. et en pâtisserie ?
En pâtisserie, éclair au chocolat. Bah, ouais. Vraiment.
Trop bien.
Éclair au chocolat. J'aime bien les îles flottantes aussi, ce qui n'a rien à voir avec tout ça, mais j'adore ça. Il m'en faisait beaucoup.
Comment ça se passait un peu la vie en général, on va dire ta jeunesse, ton adolescence, l'école ?
Alors, il faut savoir que je suis, hyperactif. Donc, c'était un peu compliqué dans le sens où, quand je faisais, par exemple, mes devoirs à l'école, etc., j'étais toujours tout était fini très vite. Donc, du coup, il fallait toujours m'occuper. Si je n'étais pas occupé, je foutais le bordel parce que, il fallait que je fasse quelque chose. Et encore aujourd'hui, je déteste ne rien faire. Il faut que je sois occupé, que je fasse des choses. Sinon, ça ne va pas. Du coup, c'était un peu compliqué parce que j'étais voir beaucoup de psychologues à cause de ça, parce qu'on ne savait pas trop ce que c'était. On ne comprenait pas pourquoi j'étais comme ça, que je réagissais comme ça, que j'étais aussi assez énervé contre la vie, du coup, parce que mes parents n'étaient pas là, qu'ils passaient moins de temps avec moi, même s'ils me donnaient beaucoup d'amour, hein, mais juste s'ils passaient moins de temps avec moi. Donc, j'étais un peu énervé contre tout.
Il y a un diagnostic qui a tout de suite été mis sur le fait que, oui, votre fils, il est hyperactif.
Non, ça a pris vraiment des années. J'ai dû aller voir, une quinzaine ou une vingtaine de psys qui m'ont vraiment dit des mots genre « votre fille est fou, votre fille, oh, quel lapsus, votre fils est fou ».
Fou, carrément ?
Ah ouais, c'était vraiment « votre fils est fou, allez voir quelqu'un d'autre, je peux rien faire ». Enfin, c'était des séances de psy où je comprenais, je comprenais pas ce qui se passait parce que je devais parler de ma vie à quelqu'un et cette personne en face de moi me disait t'es bizarre et t'es fou, quoi. Donc, voilà. Et le diagnostic a été posé, 10 ans après, quoi. Donc, j'ai eu le temps de grandir, de faire toutes ces conneries, entre gros guillemets, d'être hyper énervé dans la... Enfin, pas énervé, mais en mode, je fais beaucoup de choses tout le temps, etc. Je cours partout, je danse tout le temps, je chante tout le temps. Moi, c'est mon quotidien, encore aujourd'hui. Et je savais pas pourquoi j'avais cette énergie tout le temps à revendre. Et après, il y a juste une dame comme ça qu'on a rencontrée, très très cool du coup, parce que j'étais très traumatisé par les psys juste avant. On avait fait une grosse partie de ma vie où on a été voir beaucoup de psys. Après, ça s'est arrêté. Et après, on a vu cette dame, du coup, c'était un peu la dernière chance, entre guillemets, en mode, qu'est-ce qu'on fait de toi après, quoi. Et du coup, on a été voir cette dame qui nous a juste expliqué, en fait, que que j'étais hyperactif, etc., que ça pouvait se calmer ou se soigner avec des médicaments. Donc, on a essayé un traitement qui a marché, mais du coup, j'étais vraiment amorphe. Enfin, j'étais en classe, je ne répondais plus, j'étais fatigué, j'étais tout le temps crevé.
C'était vers quel âge, à peu près ?
Je ne sais pas, je devais avoir... Moi, j'ai commencé à aller voir le psy, je pense, vers, 7-8 ans. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a un truc qui... Enfin, pas un truc qui n'allait pas, parce que c'est pas ça, mais que... Quelque chose était différent, on va dire. Et du coup, 7-8 ans. Et puis du coup, ça a duré une dizaine d'années. Et puis j'ai été voir cette dame. Bon, il y a quand même le diagnostic s'est posé au cours des années. Et du coup, il y a cette dame qui nous a dit, oui, non, mais en fait, il est juste hyperactif. Il faut juste faire des... Déjà, on a essayé les médicaments, du coup. Donc, ça n'a pas marché. Donc, c'était... Enfin, les effets secondaires, je les ai tous eus. C'était tentative de suicide.
Ah ouais.
C'était idée noire, tentative de suicide, du mal à dormir, du mal à manger aussi. Donc j'étais, il y a un gros moment de ma vie où j'étais anorexique parce que je mangeais plus rien, j'étais amorphe, je trouvais plus goût à la vie entre guillemets.
un peu compliqué quand même quand t'es jeune, quoi. Genre 7-8 ans et que t'as juste plus envie de rien faire et que t'es... Bref. Et du coup, bon, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne solution. Et du coup, après, on est passé à autre chose. Et après, on a trouvé ce truc de faire des exercices physiques, etc. Pour reconnecter le cerveau, entre guillemets, elle disait, pour que ça me calme, en fait, et que ça me canalise. Et du coup, après, je me suis mis à faire du sport, à faire des activités, à faire de l'art, etc. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment canalisé, on va dire. Mais c'était pas mal compliqué. Parce que du coup, après, avec tout ça, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon corps, parce que j'étais très maigre et très anorexique pendant un temps de ma vie. Jusqu'à presque aller à l'hôpital pour me faire intuber, du coup, parce que je ne me nourrissais plus. Et du coup, après, ça a changé du tout au tout. J'ai commencé à remanger, mais manger énormément, parce que mon père est boulanger-pâtissier, donc viens, goûte, etc. Dis-moi ce que t'en penses, etc. Viens manger un éclair au chocolat. Du coup, c'était un éclair au chocolat tous les jours, donc c'était un peu compliqué.
Ouais, compliqué, mais quand même la chance.
Mais très cool. En vrai, la fontaine au chocolat, ma belle, mon père était chocolatier aussi, et du coup, il faisait lui-même ses propres chocolats. Donc, il y avait la fontaine à chocolat et le chocolat. Donc voilà. Donc j'étais très anorexique. Enfin, on va dire anorexique, pas très anorexique, parce que c'était soignable et c'était vraiment à la limite, quoi. Et après, c'était presque de la boulimie, quoi. Enfin, je mangeais pour manger mes sentiments, en fait. Le fait que j'allais pas bien et que ça se passait pas bien avec mes parents, etc. Et du jour au lendemain, ma famille a commencé à me dire « t'es un peu gros, quoi, il faudrait que t'arrêtes de manger ». Donc moi, j'ai pris au pied de la lettre et du coup, j'ai commencé à me restreindre à nouveau. Du coup, plus manger de chocolat, de coca, boire de coca, etc. Enfin, tous ces trucs dans le genre. Et puis, ça a refait l'effet inverse. Donc, j'ai pas arrêté de faire le yo-yo toute ma vie avec mon poids. Encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et du coup, voilà, mon enfance...
Ok. Et aujourd'hui, le fait d'avoir eu un diagnostic, d'avoir réussi à mettre des mots sur tes mots, est-ce que ça aussi t'a aidé à aller mieux et à dire « Ok, en fait, c'est ça, je sais maintenant comment je peux faire pour que ça aille mieux ou comment analyser des situations ?»
Ça m'a aidé sans non plus trop m'aider parce qu'en fait j'ai tellement vécu avec ça, le fait que je sache pas ce que j'ai entre gros guillemets et pourquoi je suis comme ça, donc j'ai juste vécu ma vie telle qu'elle était. C'est sûr que le jour où on m'a dit que c'était pas de ma faute entre gros guillemets et que c'était pas de ma propre raison de foutre tout le temps la merde ou d'être tout le temps énervé ou en colère, parce que c'était toutes mes émotions étaient hyper exacerbées. C'était quand j'étais triste, j'étais vraiment très, très triste. Quand j'étais énervé, j'étais très, très énervé jusqu'à donner des coups de poing contre les murs, quoi. C'était vraiment vénère. Et mes parents ne savaient pas comment me calmer, quoi. C'était arrivé à un point où on ne savait pas comment me calmer, quoi. Et du coup, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, en fait, je suis juste quelqu'un de normal. Je suis juste, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Enfin, encore aujourd'hui, quand je vis quelque chose... que ce soit triste ou heureux, je suis tout le temps dans l'euphorie permanente, en fait. C'est jamais la mi-mesure. Voilà. Donc, ça m'a aidé, entre gros guillemets, mais en même temps, j'ai toujours vécu comme ça, quoi.
Quand tu as grandi, est-ce que t'avais quand même un peu des copains à l'école ou t'étais plutôt quelqu'un de solitaire ?
Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très, très avenant avec les autres. Donc, en vrai, ça s'est toujours bien passé, entre gros guillemets. Je me suis toujours trouvé des copains, des copines. Ça n'a jamais été mon problème en soi.
C'est le côté commerçant de tes parents, ça, c'est sûr.
Sûrement, je pense.
Là, non, mais c'est vrai, la boulangerie.
Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, etc. Et j'étais un peu, on va dire, le chouchou de la boulangerie. C'est les clientes me ramenaient souvent des chocolats ou des trucs pour me faire plaisir. Donc, en vrai... Ouais, pourquoi pas, je pense.
Est-ce qu'à cette époque-là, t'as subi aussi moquerie ou pas vis-à-vis de ton hyperactivité ou d'autres choses ?
Alors, pas de mon hyperactivité. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait 10 ans d'internat. Toute ma scolarité, en fait, du collège jusqu'à fin lycée, j'ai fait, euh,
j'ai fait de l'internat. Et ça a débuté, en fait, parce que j'étais dans le collège près de chez moi, en Lorraine. Et en fait, ma première année de sixième, je me faisais frapper dessus, clairement. En fait, il y avait une espèce de passerelle sur un pont. Et en fait, tous ceux qui voulaient me frapper ou me faire du mal, du coup, m'attendaient à la sortie, à ce pont-là, pour me fracasser vraiment sévèrement. Genre, sans bleu, il n'y a pas un seul jour où je rentrais pas avec des bleus à la maison. Donc, on a dû me... Enfin, j'ai fait ma première année. Résultat catastrophique, parce que bah, forcément, se faire harceler, c'est pas très cool.
C'est pas très cool.
Après, moi, je suis quand même une tête brûlée. Il faut savoir que bah, même quand les gens me frappaient dessus, j'avais quand même le sourire. Tu vois, j'étais en mode, bah, ça me fait rien. Je suis pas quelqu'un qui montre physiquement ce que... J'ai pas envie qu'ils aient ce pouvoir sur moi. Donc, en vrai, je me faisais frapper dessus, mais j'étais en mode, bon, je suis quand même fort. Mais c'est peut-être pas la bonne façon de réagir. Bref.
Mais après, est-ce que t'avais pas aussi un truc en toi qui te disait, si ça doit être comme ça, ce sera comme ça. Enfin, c'est-à-dire que t'avais pas envie de changer...
Ah, j'ai toujours été comme ça, et encore aujourd'hui, je préfère vraiment mourir, on va dire, entre gros guillemets, voilà. Je préfère mourir comme je suis... Et comme je l'ai toujours été, que d'être vivant en n'étant pas moi-même, en fait, tout simplement. Parce que ça ne serait pas une vraie vie, quoi. Je préfère vivre à 100% tel que je suis que d'être quelqu'un que je n'ai pas envie d'être. Donc même depuis tout petit, ça a toujours été en moi de « je fais comme je veux », en fait. Même par rapport à mes parents, ma famille, tout le monde, tous les gens autour de moi, j'ai jamais fait en sorte que ça m'atteigne, en fait, le jugement des autres. Je me suis toujours battu contre. Donc, en vrai, c'est vraiment, je suis une tête brûlée. C'est juste le mot qui me définit le plus, je trouve. Alors, du coup, je finis mon histoire.
Ben oui.
Donc, ma 16e, ça s'est super mal passé. Donc, on m'a changé de collège. Donc, j'ai dû aller dans les Vosges. Voilà. Donc, j'étais dans les Vosges, qui est à 1h30 de chez moi. Moi, j'habite près de Metz, pour situer, si les gens savent. Voilà. Près de Metz, et c'était à 1h30 de chez moi. Donc, plutôt gros pas dans ma vie que d'aller à 1h30 de mes parents et de ma famille. C'était un peu compliqué à vivre parce que j'ai toujours été très, très proche de mes parents, de ma grand-mère, de mes tantes, de ma famille en général. Et de partir comme ça, tout seul, pas en sixième, quoi. Donc, internat, avec des gens que je connais pas, une école énorme, alors que j'étais toujours habitué à quelque chose d'assez restreint, parce que bah, c'est des petits collèges de village, quoi, tout simplement. RPZ de la Lorraine. Et du coup, bah, j'arrive dans ce grand truc où je connais personne, où je suis en internat. Donc, du coup, ça veut dire que la journée, je suis à l'école, le soir, je dors à mon école. Donc, ce qui peut être un peu déroutant pour un enfant, on va dire. Et surtout, tu te retrouves dans la chambre avec des gens que tu n'as peut-être pas envie d'avoir dans ta chambre, on va dire. Donc, voilà.
Ok. Et ça t'est beaucoup arrivé de te retrouver avec des gens que tu n'avais pas envie d'avoir dans ta chambre ?
Ça m'est arrivé. Après, encore une fois, tête brûlée oblige. En vrai, voilà, je fais toujours à ma tête. Et j'ai réussi avec beaucoup, beaucoup de travail, avoir ma chambre personnelle. Voilà.
Waouh ! Grand luxe !
Grand luxe. Du coup, moi, j'étais quelqu'un... J'étais pas très bon à l'école, vraiment pas du tout. Mais par contre, je m'entendais bien avec les surveillants, etc. Donc, en vrai, on s'est toujours arrangé pour que je me retrouve tout seul dans ma chambre pour pas que je me fasse embêter par les autres, quoi.
Et en étant pas très très bon à l'école, comme tu disais, est-ce que tu avances vers, on va dire, un cursus classique, ou est-ce qu'il y a un moment où tu changes un peu de braquet, ou avec tes parents vous dites, bon, en fait, peut-être qu'il faut changer de voie et faire autre chose de plus concret?
Alors, de la 6e jusqu'à la 3e, c'était catastrophique au niveau des notes. Je m'en sortais bien avec mes amis, etc. Bon, j'avais des amis, c'était bien, c'était cool et tout. Mais vraiment, de 6e jusqu'à la 3e, c'était super compliqué au niveau des notes, de l'école. J'étais vraiment un bon à rien, comme disaient les profs, tout simplement. Il y a même une prof, une fois, qui m'a dit que je ne ferais absolument rien de ma vie. Bref.
C'est bien, c'est encourageant, les profs, ouais. Comme ça.
Très cool. Et du coup, bah, je suis arrivé en 3e. Truc horrible, la 3e, parce que bah, t'es obligé de choisir ta vie, en fait. Genre, on te met devant...
une comment ça s'appelle, quelqu'un qui choisit ton destin là.
Moi je sais pas, j'avais envie de parler de Morpheus dans Matrix avec pilule rouge, pilule bleue, genre c'est comme ça que tu choisis ton avenir.
C'est un peu ça, bah la meuf qui te dit bon bah qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux aller à droite ou à gauche, ben bah, tu sais pas trop. Et puis bah moi comme j'étais très peu doué à l'école, il y avait pas beaucoup de choix, on va dire, pour moi. C'était plus en mode c'est où tu vas travailler directement. Sans passer par la case retourne en cours, ou sinon tu trouves quelque chose dans vraiment lequel tu t'épanouis, quoi. Mais c'était vraiment, enfin moi je trouvais pas du tout, je savais pas du tout quoi faire. Et c'est à l'époque là où j'avais justement commencé à faire de la photographie, à peu près à 12-13 ans on va dire, j'ai commencé à faire des photos au collège. Et du coup je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un quand même d'assez artistique, on va dire. Puis à l'époque aussi, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de dessins, etc. Enfin, ça a toujours été un peu mon échappatoire, le dessin, l'art en général, les jeux vidéo, beaucoup. Et du coup, j'arrive à ce choix cornélien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Donc on a choisi pour moi, donc ce serait ébéniste, donc en ébénisterie.
Faire des meubles.
C'est ça, marqueterie, meubles, etc. Et en fait, moi, j'avais toujours vu l'ébénisterie comme juste de la marqueterie. Alors, il faut savoir que la marqueterie, c'est vraiment juste pour, décorer les meubles. Mais tout ce qu'il y a avant, c'est construire le meuble. Donc, je suis arrivé dans cette école. On m'a mis une planche et une scie dans les mains. Je ne peux pas. Je ne sais pas faire. J'ai vraiment essayé, en plus, de scier cette planche. Je n'ai pas la force pour scier cette planche. Du coup, j'ai passé, encore une fois, parce que je m'entends toujours bien avec, avec les surveillants et les professeurs. Enfin, ça dépend lesquels, mais en tout cas, là, c'était le cas. Du coup, bah, j'ai passé 6 mois à ne pas aller en cours d'ébénisterie, parce que ça ne me plaisait pas du tout et c'était horrible. Donc, je lisais des livres sous le préau. Génial comme vie d'étudiant.
Tu lisais quoi?
Je crois que c'était Hunger Games, des trucs dans le genre, vraiment. Des trucs vraiment très très cool.
Et quand tu parlais de jeux vidéo, tu jouais à quoi?
À l'époque, j'ai toujours été assez fasciné par tous les Mario, en fait. J'ai fait tous les Mario sur les DS, etc. J'ai eu la Wii, enfin bref. Après, ça a été un peu plus gore, donc Resident Evil, Bioshock, etc. Pour ceux qui savent. Donc j'étais en mode je vais pas en cours, en fait je vais pas aller en cours parce que ça ne me plaît pas. Et puis de toute façon et c'est surtout aussi l'accoutrement qui ne me plaisait pas, l'ambiance, parce que c'était très masculin, hein, tout simplement. Il y avait genre une meuf je pense dans toute la promo, genre il y avait une quarantaine de personnes et il y avait une meuf, quoi. Donc moi me retrouver avec des mecs, c'était pas trop mon trip, surtout que j'étais toujours en internat, donc c'était vraiment très concours de bites dans les chambres, donc c'était génial. Donc je me suis vite cassé de là parce que ma mère en fait m'a pas trop donné le choix, mais en même temps je l'en remercie beaucoup. Elle m'a dit tu vas faire de la couture. Voilà, donc elle a commencé à m'inscrire dans une école de couture. Donc
elle a choisi un peu pour toi en se disant...
Peut-être que ça lui plaira, vraiment, clairement. Elle m'a pas demandé mon avis, elle m'a dit « Écoute, là ça va pas du tout. C'est vraiment là, tu refais la même chose qu'au collège, c'est pas possible. Enfin, on peut pas te laisser comme ça, donc c'est où tu vas travailler ou on te met en couture. » Donc j'ai jamais cousu de ma vie, j'ai toujours vu ma mère coudre. J'ai jamais cousu de ma vie, j'ai jamais pris un fil et une aiguille dans mes mains, vraiment, jamais.
Mais elle a senti que c'était potentiellement un truc pour toi.
Je sais pas comment elle a fait vraiment, mais les mamans, c'est un truc de ouf. Hein. Les mamans, ça a toujours raison, une maman, je sais pas pourquoi, mais ça a toujours raison, faut toujours les écouter. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être cool. Donc je suis arrivé dans un lycée plutôt cool, très loin de chez moi encore une fois, parce que... j'accumule, j'ai vraiment passé, je sais pas, 10 ou 12 ans en internat. J'ai jamais fait une école à côté de chez moi. Du coup, c'était encore plus dans les Vosges profondes, vraiment encore plus de vaches, encore plus de champs. Et du coup, j'arrive dans cette école très très cool, je rencontre plein de gens incroyables, parce que je suis enfin avec des gens qui ont les mêmes attraits pour moi
que j'avais à l'époque, donc tout ce qui est la mode, j'aimais bien m'habiller bien, j'aimais bien regarder un petit peu des défilés, etc. Donc j'avais déjà ce goût-là, même si la couture, c'était pas du tout fait pour moi. Je dessinais déjà des vêtements, mais en même temps,
Oui, tu ne voyais pas forcément les faire ou...
Non, ça ne m'intéressait pas plus que ça, et j'y avais même jamais pensé, en fait, tout simplement. Et du coup, j'arrive dans cette école où, bah, vraiment, c'est la délivrance totale. J'arrive dans un endroit où je suis avec vraiment des gens qui me comprennent et qui ne me jugent pas pour ce que je suis. Parce qu'il faut savoir que bah, toutes ces années de collège, de lycée, etc., moi, j'étais vraiment la seule personne qui se maquillait.
Oui, on va y venir.
On va y venir. J'étais la seule personne qui se maquillait, j'étais la seule personne qui s'habillait un peu bizarrement, donc avec, par exemple, mon premier look ever, un peu féminin, on va dire, c'était un leggings... un leggings Galaxy Léopard avec des Doc Martens et un pull Lion Galaxy.
Incroyable.
Voilà, donc ça, c'était au collège, du coup. Et c'est vrai que bah, j'ai toujours été comme ça, en fait. Ça s'est jamais posé comme question de, justement, ne... Voilà, il n'y avait pas de genre dans les vêtements, il n'y avait pas... Je me suis toujours habillé comme je voulais. Mes parents n'étaient pas très contents de ça, clairement, mais je me suis toujours habillé comme je voulais. Et du coup, j'arrive dans ce lycée où je peux vraiment être moi-même, me maquiller et m'habiller comme je veux, et tout va bien. Et surtout, avec les résultats scolaires qui augmentent, parce qu'il faut savoir que quand on fait quelque chose qui nous plaît vraiment, ben on passe de 8 de moyenne à, je sais pas, 16, 17. J'étais le meilleur de la classe, donc c'était plutôt cool.
Trop bien.
Ouais.
Ben ça doit être bien aussi de se sentir à un moment pas nul dans un truc.
Ben c'est sûr que de passer des années avec des profs qui te disent « Mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais, mais on ne comprend pas pourquoi tu ne comprends pas. » On fait tout ce que tu peux on fait tout ce qu'on peut pour t'aider, mais en fait ça ne marche jamais. Enfin, et c'est ça. J'avais toujours l'impression d'être le problème, alors que c'est pas moi le problème, mais c'est plutôt tout ce qu'il y a autour. Par exemple, vraiment au niveau orthographe, je peux pas, mais c'est parce que je suis dysorthographique. Et enfin, il y a plein de trucs comme ça qui font que ben en fait c'est hors de mes capacités. Alors bien sûr, je peux évoluer et aujourd'hui, je pratique justement pour pallier à tout ça. Mais c'est pas en disant à quelqu'un que t'es une grosse merde et que tu n'y arriveras jamais que la personne y arrivera. C'est en l'encourageant, quoi qu'il arrive. Et du coup, je suis arrivé dans ce lycée-là où justement, bah, les professeurs étaient en mode nous pousser vers l'avenir, quoi, pas nous rabaisser, tout simplement.
Est-ce que tu peux me parler du dilemme Lady Gaga ou appareil photo?
Alors du coup, il faut savoir que je faisais déjà de la photo avec l'appareil de mon père. Donc c'était souvent des autoportraits. C'était vraiment l'ère Facebook. C'est Facebook, il n'y avait pas encore Instagram. Donc je postais des trucs pas ouf, hein, en vrai. Juste des autoportraits de moi maquillés, tout simplement. Avec un appareil photo, l'appareil photo de mon père. Il en avait un peu marre que je le vole. Donc en fait, le dilemme dans la vie, c'était... Ou pour ton anniversaire, tu as un appareil photo, ou tu vas voir Lady Gaga en concert, qui était à peu près le même but. J'étais en mode, mon Dieu, genre, que faire? Et du coup, j'ai choisi l'appareil photo, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parce que j'aurais bien voulu voir ce concert de Lady Gaga. Mais bon, bref. Du coup, j'ai choisi l'appareil photo. Donc, j'ai commencé vraiment à continuer à faire de la photographie, à maquiller, etc. Et du coup, la première fois que je me suis maquillé, mes parents n'étaient pas trop d'accord. Et en fait, ils voulaient pas m'acheter de maquillage du tout. Et ma mère, c'est pas une personne qui se maquille beaucoup, donc j'avais pas de maquillage autour de moi. Et du coup, j'ai commencé à me maquiller avec de la peinture. Voilà, donc de la peinture à l'huile. Donc le truc qui ne s'enlève pas. Donc,
donc on peut le dire, une mauvaise idée.
Une très mauvaise idée, du coup. De l'acrylique, du coup.
Très
mauvaise idée, parce que le premier maquillage que je me souviens avoir fait un peu what the fuck, on va dire, c'était un teint vert en acrylique. Voilà.
Ça met combien de temps à partir un teint vert en acrylique? Alors, sur le visage?
Je sais plus, mais j'ai un trauma en moi qui se souvient de moi en train de frotter mon visage et que ça ne partait pas. Voilà.
Pierre Ponce?
Pierre Ponce. Mon père m'a conseillé Pierre Ponce, c'est vrai. Il faut savoir que j'ai toujours vraiment été comme ça. C'est vraiment, je fais les choses de mon côté sans le dire à mes parents. Et après, j'arrive en mode, aidez-moi. Donc, ils ont commencé, du coup, à m'acheter du maquillage.
Mais alors, donc tu disais, la photographie et le maquillage sont deux choses qui sont arrivées un peu en même temps dans ta vie. C'est-à-dire que pour te photographier, il fallait te maquiller. Pour aller plus loin dans la photographie, il fallait s'acheter du matériel, etc. Pour encore plus se maquiller, faire encore plus de choses. Mais déjà, dans les premiers temps, juste le fait de se maquiller, qu'est-ce que tu recherchais ou qu'est-ce que tu faisais avec ce maquillage ?
Alors, je me souviens que la personne qui m'a vraiment initié au maquillage, on va dire, ou la première fois que j'ai vu un homme se maquiller, c'était mon premier copain. Voilà, tout simplement. Qui était plus âgé que moi, je crois qu'il avait 17, et moi, je devais avoir 13, un truc dans le genre. Du coup, c'était mon premier copain, et je me souviens qu'il mettait du fond de teint, juste du fond de teint, comme ça, pour corriger un petit peu les imperfections. Moi, ça m'a jamais intéressé de corriger mes imperfections, enfin elles sont là et c'est tout. Quand j'ai eu un petit peu d'acné, du fond de teint et c'est tout, on n'en parle plus. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment, mais je me suis dit, en fait, un mec ça peut se maquiller, ok, trop cool. Allons-y. Et du coup, j'ai commencé justement à faire ça avec, de la craie, de l'aquarelle, de la gouache. Enfin, j'ai fait plein de tests et d'expériences parce que mes parents ne voulaient pas m'acheter de make-up. Qui sont conclués par des échecs, du coup, qui sont encore en photo sur mon ordinateur. Il faut savoir que. Donc j'ai commencé le make-up comme ça, et puis après, mes parents ont commencé à un peu m'acheter du make-up, pas non plus un truc de ouf, juste pour que je survive. Mais
il y avait ce côté très arty, du coup, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment...
Ouais. De toute façon, dans mes photos, comme dans mon art, comme dans n'importe quoi, j'ai toujours fait avec rien. Rien du tout. C'est toutes les photos que je fais aujourd'hui, je le fais avec la lumière de la fenêtre. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de flash, j'ai pas besoin de lumière d'intérieur. J'ai toujours fait avec rien du tout, avec un appareil photo et c'est tout. Pareil pour le maquillage. Moi, je me souviens que j'ai commencé à faire, mes fards à paupières avec du rouge à lèvres liquide. Voilà, j'ai toujours été en mode, j'ai pas ce que je veux, donc j'essaye de faire avec ce que j'ai.
Tu te débrouilles, enfin, tu crafty, quoi.
Crafty de ouf. C'est vraiment, ça a toujours été comme ça. Je me souviens de moi, vraiment, mon premier appareil photo, c'était un appareil photo, en fait, il fallait le mettre sur pied, appuyer sur le bouton, faire la mise au point. Et je courais, en fait, pour me prendre en photo. Voilà, ça, c'était mon quotidien pendant, 5 ans. Du coup, j'appuie sur le bouton, je vais prendre ma pause. C'est flou, on recommence. C'est pas flou, c'est cool. Voilà.
Et c'était quoi alors ce tout premier appareil photo, ton tien à toi ?
C'était un Nikon très très lourd. Il était horrible parce que vraiment, dès que tu le prenais dans les bras, c'était très lourd, pas très pratique. Voilà.
Et quand tu fais de plus en plus de photos, qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce qui t'active ? Et qu'est-ce que tu trouves là-dedans qui t'excite au quotidien ?
Je pense que c'est vraiment créer de nouvelles choses. J'ai jamais été très intéressé par le résultat final, on va dire. Je m'en suis rendu compte après de ça. Mais je pense que c'est vraiment la création en elle-même qui est intéressante et pas le résultat final. Et l'aboutissement de la chose, c'est vraiment chercher de nouvelles techniques, toujours être dans la recherche en fait, permanente de nouvelles choses. Moi, au début, c'était vraiment des mises en scène très, très simples. C'était pas très compliqué à faire. Et plus j'avançais, plus... il faut savoir que j'ai toujours été autodidacte, du coup. Donc, j'ai toujours fait tout moi-même, tout ce qui est Photoshop, tout ce qui est... appareil photo, moi pendant 5 ou 6 ans je savais pas du tout régler mon appareil photo, il était vraiment sur manuel
automatique
du coup, et après j'ai commencé à faire du manuel, donc c'est vraiment, j'ai fait avec ce que j'avais comme je pouvais, et c'est comme ça que ça évolue en fait. Et vraiment Photoshop, moi j'ai fait ça avec des tutos YouTube, j'ai jamais pris de cours de Photoshop ni de photographie en général. Et voilà, je sais plus c'est quoi. C'était quoi la question ?
Ma question, c'était qu'est-ce qui te plaît dans la photo ? Qu'est-ce que t'aimes ?
Ce qui me plaisait vraiment, c'était justement de se surpasser soi-même, d'être toujours en fait... moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis en train de faire la photo, je pense déjà à la photo d'après. Moi, les projets précédents ne m'intéressent guère. C'est du passé.
Donc, vraiment, j'essaye de level up à chaque fois et de rechercher de nouvelles techniques en photographie. J'ai fait du noir et blanc, j'ai fait de la couleur, j'ai fait des portraits, j'ai vraiment fait énormément de choses. Je me suis scanné la gueule sur le scanner de mon père. Enfin, j'ai fait vraiment plein de choses. Et c'est ça qui m'intéressait, qui m'animait, c'était vraiment de trouver de nouveaux personnages, parce qu'en vrai, au début, c'était vraiment des personnages que je créais avec un univers tout autour. Et ça me faisait juste plaisir, en fait, de bosser sur quelque chose qui était hors couture, hors cours. Vraiment ma passion personnelle, où je suis tout seul avec ma musique. Je crée mon personnage dans le miroir avec du make-up. Et après, je fais la mise en scène. Et après, je passe des heures en retouche parce que j'adore retoucher des photos. Et
en gros, si je comprends bien, c'est que la photo finale encadrée vient juste attester de tout un processus créatif que tu as eu et que tu as fait avant. C'est-à-dire qu'en gros, la photo, c'est le point final, mais elle vient juste raconter tout ce que toi, tu as eu comme idée de couleur, de mise en scène, de matière, etc.
Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. C'est vraiment pas le point final qui est important, c'est vraiment le processus derrière tout ça. Et faut savoir que depuis que je faisais de la photographie, et pendant 3 ou 4 ans, même voire 5 ans, je faisais presque des photos tous les jours. Parce que vraiment, c'était quelque chose en moi, j'avais vraiment besoin d'exprimer quelque chose, de ma rage, ma colère, ma tristesse, d'être dans ce monde tellement pourri, mon Dieu. Mais j'avais vraiment besoin de faire tout ça pour mon personnel, pour mon psychique, parce que c'était beaucoup, en fait, mettre toutes mes névroses, toutes mes pensées noires, tout ce pourquoi j'étais pas heureux d'être dans ce monde, dans des photos, en fait, justement. C'était emprisonner ça, c'est faire des... Comment expliquer ça ? C'est vraiment prendre en photo la réalité et la tordre comme j'ai envie qu'elle soit.
Qu'est-ce qu'ils ont pensé, tes parents, de tout ça, de toi et de la photo ?
Alors, au début, comme tout, c'était vachement compliqué de faire comprendre à mes parents pourquoi, comment, pourquoi je faisais ça, parce que eux, c'était boulangerie, pâtisserie et c'est tout. Donc, monde hétéronormé de « il faut qu'on aille au travail et c'est tout » pour gagner de l'argent, ce qui est normal, en vrai. Et ne pas penser à son côté personnel et psychique. Et moi, c'était pas en réflexion à l'époque-là, mais juste j'étais dans le mode, bon, ça me fait du bien, donc je fais ce qui me fait du bien, tout simplement. Et du coup, c'est avec beaucoup, beaucoup d'années de travail qu'ils ont commencé à comprendre pourquoi, comment. Parce qu'au début, c'était plutôt en mode, bon, ça te rapportera jamais d'argent, donc arrête. Ça ne te fera jamais vivre, donc arrête. Et pareil pour le maquillage. Hein. Le maquillage, c'était hyper compliqué. Au début, c'était en mode, non, mais les mecs, ça se maquille pas. Même pour les vêtements, etc. Moi, je me souviens de ma mère qui me disait, je suis désolé, mais je peux pas sortir avec toi dans la rue comme ça. Mon père, ça a jamais été trop ça. Mon père, il s'en fout. Il vit. Il est là. Il est très gentil, bonne patte, etc. C'est plutôt ma mère qui s'est toujours hyper inquiétée pour moi. Et du coup, qui m'a toujours dit... fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que les gens vont penser de toi, etc. Donc ça, c'était vraiment très dans le « il faut faire attention à ce que les gens pensent autour de nous », parce qu'elle-même est comme ça. C'est quand on va chez elle, il faut que tout soit propre. Si c'est pas propre, personne ne rentre chez nous. Ça a toujours été comme ça. Et du coup, en fait, c'est un travail permanent vers l'acceptation, tout simplement. Et je pense que c'est bien de faire ça avec ses parents. Il faut les comprendre aussi et il faut se dire que ils n'ont pas vécu dans la même époque que nous, tout simplement, et qu'ils ont aussi le droit d'apprendre et de faire des conneries. Parce qu'encore aujourd'hui, elle me sort des trucs, je suis en mode « Maman, s'il te plaît, genre, j'ai parlé de ça avec toi pendant des heures, est-ce que tu pourrais faire un effort ?» Mais bon, c'est compliqué, c'est un fardeau, c'est sûr, mais si on ne le fait pas, personne ne le fait, et c'est comme ça que les gens changent, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que les gens comprennent. Et aujourd'hui, c'est très « je suis venu sur Paris, je fais ma vie », et puis ils sont très contents que ça me rapporte de l'argent, que je puisse vivre de ça, et puis ils sont fiers de moi, mais ça a mis des années, quoi. C'était vraiment Nathan, je vais pas te suivre dehors parce qu'en fait les gens te regardent bizarrement et moi ça me va pas.
Parce que oui, tu parlais de tes tenues un peu exubérantes, on va dire colorées, festives, voilà, ta manière de t'habiller. Mais c'est vrai que le maquillage pour toi, c'est un maquillage quotidien et c'est pas un maquillage, on va dire, de jour, boy look, machin, où je me suis fait un peu les poches, un peu le teint. Non, c'est un maquillage qui est coloré, il y a du liner, il y a plein de choses, quoi.
Ouais, c'est vraiment mon quotidien. En fait, mon maquillage quotidien pourrait être le maquillage drag de quelqu'un, clairement. Mais voilà, donc c'est un peu compliqué de sortir avec moi pour mes parents. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein, tout va bien. Mais c'est juste qu'il faut, c'est vraiment apprendre aux gens, tout simplement.
Donc toi, ton rituel, entre guillemets, pour sortir de chez toi, c'est tout de suite se maquiller, etc.
C'est look et make-up. C'est vraiment, moi, c'est des choses comme ça qui...
C'est ta routine, c'est ta morning routine.
C'est vraiment ma routine. J'aime juste foncièrement me préparer. J'aime bien ça. Je prends pas énormément de temps. Je prends 30 minutes pour me make-upper et puis je cherche une tenue. Mais ça me fait plaisir et je prends du plaisir à me maquiller et à faire tous les jours des nouveaux personnages, encore une fois. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, tout le monde joue un rôle. Donc toi, si tu as envie de mettre un hoodie et une casquette rose...
Bah, ce qui est un peu tout le temps mon look.
Voilà, j'avoue. C'est ça. Donc, ça dit quelque chose de toi. Si moi, j'ai envie de sortir complètement en masque, en mode vas-y, je fais boy aujourd'hui, parce que ça m'arrive aussi de vouloir faire.
Performer la masculinité à travers tes vêtements.
C'est ça. Parce que j'en ai envie et que c'est mon mood du moment, parce que vraiment, ça aussi entre l'un et l'autre, c'est catastrophique. Mais du coup, j'aime bien en fait ce truc de jouer des personnages tous les jours, d'être dans des peaux différentes et d'être jamais la même personne, d'avoir jamais la même couleur de cheveux, de passer du jour au lendemain aux cheveux longs, à tête rasée, ce qui m'est arrivé il n'y a pas assez longtemps que ça. Les gens ne comprennent pas autour de moi et me trouvent fou, mais en fait, c'est ma réalité. Il faut juste se dire que je fais de mal à personne. Donc en vrai,
j'aime bien.
C'est ça, j'aime juste... évoluer. Je suis un Pokémon, en fait.
Dans tes photos, ce que tu essayes de raconter ou de photographier de manière générale, c'est quoi ?
Alors, en gros, j'ai pas trop de style prédéfini. Je peux vraiment photographier n'importe quoi. C'est vraiment un truc que je me suis posé quand j'ai commencé la photographie. C'est moi, j'en ai vraiment ras-le-bol des gens sur Instagram ou en général dans la vie qui... sont dans leur univers et qui n'essayent pas d'autre chose. Parce que je trouve que, justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est d'aller dans des univers différents, essayer de nouvelles choses, se dépasser soi-même, tout simplement, même si on n'aime pas. On essaye et après, on revient en arrière, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'aime bien, en fait, photographier. J'aime bien photographier ce que les gens n'aiment pas, genre, par exemple, tout simplement, les pieds. Les pieds, les gens n'aiment pas les pieds. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas les pieds. C'est comme ça, ça fait partie de votre corps, il faut le savoir. Donc, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont des fétiches avec les pieds. Moi, j'ai fait beaucoup de photographies, tout simplement, avec des fétiches. Parce que j'ai l'impression que le fétiche, dans la vie, ça fait peur aux gens. Alors qu'on a tous des kinks, en fait, dans la vie. On a tous des trucs où on aime, j'en sais rien, être étranglé, être attaché, suspendu, la tête en arrière, parce qu'il y a ma photo juste derrière.
Ah oui, je sais pourquoi il me montre, est-ce qu'il me montre quelque chose ? Oui, une petite croix de Saint-André.
C'est ça.
Ouais.
Et du coup, j'aime bien représenter le kink des gens et justement prouver que c'est tout à fait OK et que c'est pas des gens... Enfin, vraiment, les gens que j'ai pris en photo qui sont juste derrière toi, en fait, ils ont un appartement, ils font du BDSM dans la vie de tous les jours et ils ont plein d'accessoires comme ça et ils kiffent leur vie. Et c'est leur quotidien, en fait, qui n'est pas forcément le mien. Mais j'aime bien justement prendre en photo le quotidien des gens et l'amour. Les différentes formes d'amour qu'ont les gens, en fait, les uns avec les autres. Ça, c'est mon père, mais bon.
Ouais. Mais oui, non, là, alors là, la photo de ton père qui est au-dessus de ta cuisine, alors comment on pourrait l'écrire ? Le haut, une sorte de costard, manteau, avec une... pas chemise à jabot, mais ça doit être une lavalière ou quelque chose comme ça. Et le bas, c'est complètement autre chose.
C'est mes jambes, du coup. C'est un photomontage du buste de mon père et de mes jambes à moi. Et du coup, je suis en barésie et en talons. Et mon père est en costume. Voilà.
Voilà. Mais tout ça ne forme qu'une seule personne.
C'est ça.
Cette photo est vraiment très marrante. Parce qu'en fait, les proportions sont vraiment absurdes. Les jambes sont absurdes. La perspective est incroyable. C'est très, très marrant. Mais c'est vrai que t'es assez connu pour ça, et moi je conseille aux gens d'aller au musée. Quand je dis musée, c'est aller sur le compte Nathan Seleghini, c'est-à-dire que aller regarder, il y a vraiment des photos à l'infini, et il y a de tout. Il y a vraiment de tout. C'est coloré, c'est parfois un peu étrange, un peu bizarre, mais il y a de la peinture, parce que je pense que tu rends aussi hommage à certaines époques de ta vie qui dégoulinent sur des personnes. T'as fait des photos de Soa de Mus, il y a des photos, très jolies photos aussi de ta grand-mère. Enfin, vraiment, vous pouvez aller vous balader sur son compte comme au musée, vous pouvez y passer une bonne partie de la journée.
C'est gentil.
Bah non, mais c'est vrai.
Et c'est vrai que j'aime bien vraiment aller dans des univers différents et essayer de nouvelles choses et montrer aux gens des choses qu'ils ne sont pas habitués à voir et justement les sublimer pour que... J'aime bien quand les gens ont un peu peur de mes photos, mais qu'ils aiment bien quand même les regarder. C'est ça, en fait, le truc qui est réussi, c'est justement, t'es en mode, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ah ben non, mais ça m'intéresse, je vais regarder un peu plus loin. J'aime bien ça, justement.
Tes photos vont t'amener à Paris, mais aussi à photographier des personnes du type drag queen. Mais ça, on y revient juste après les questions de Mia. Car à la rédaction de la Queenterview, j'ai une assistante éditoriale de l'extrême qui s'appelle Mia et elle m'aide à préparer l'émission. Bon, salut Mia.
Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question.
Hey yo.
La première question de Mia.
Bonjour Edith, pourquoi tu t'appelles Edith Fiac?
Ah, elle est trop cute. Mais bien sûr qu'elle est trop mignonne.
Une enfant qui dit Fiac, j'adore, mon dieu.
Parce qu'en plus, après ça, elle a une deuxième question qui vient.
Ok.
Mais déjà, pourquoi tu t'appelles Edith Fiac?
Alors, il faut savoir que Edith Fiac, ça vient d'une discussion avec un ami à moi qui s'appelle Cyril Piros. Du coup, on était à un café à Paris, tout simplement. Ça faisait un an que je faisais du drag déjà, bien. Et en fait, j'avais toujours pas de nom drag. Je ne trouvais pas. Il fallait absolument que je trouve un nom drag parce que Nathan Seleghini sur scène, c'est pas compliqué parce que tout le monde écorche mon nom de famille. Tu l'as bien dit aujourd'hui, c'est bien. Et du coup, il fallait trouver un nom. Je ne savais pas quoi prendre. Donc, on a commencé à chercher. Et moi, j'aime beaucoup Edith Piaf, vraiment. Genre, j'ai écouté Edith Piaf toute mon enfance. Mes parents m'ont beaucoup fait écouter de Edith Piaf, Dalida, etc. J'ai baigné dans ça. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que ce soit classe, mais irrévérencieux à la fois. Parce que je pense que je peux être un peu... pas hautain, mais un peu classe, et des fois, enfin souvent, très irrévérencieux. Et du coup, bah, Edith comme Edith Piaf, et Fiac comme le cul, du coup.
Oui, parce que Mia avait la suite de la question.
Ça veut dire quoi, Fiac?
Du coup, Fiac, ça veut dire le cul, quoi. Vraiment.
Et t'avais eu quoi comme autre idée de nom? Ça a été quoi un peu le processus avant d'arriver à Edith Fiac? Est-ce qu'il y a eu d'autres noms?
Alors, il y a eu d'autres noms, sauf qu'ils n'ont pas été retenus. C'était Marie Trottoir. Voilà, parce qu'il faut savoir que ma mère s'appelle Marie et que ma grand-mère s'appelle Marie. Et je me suis dit, bah, Marie Trottoir, en fait, trop cool. Et en fait, il faut savoir aussi que c'est une chanson d'Edith Piaf, donc tout est lié.
Ok.
Donc, Marie Trottoir, mais après, on m'a dit, bon, tu peux pas t'approprier la sexualité de quelqu'un, donc les travailleuses du sexe. Donc, je me suis dit, bon, ok... on fait autre chose.
Mais c'est un bon nom, Trottoir, je trouve.
C'est un nom cool, je trouve.
Ouais.
House of Trottoir, genre.
Bah ouais, clairement, où il est jamais Trottoir, tu vois. Ah non, tu peux en faire plein des jeux de mots avec Trottoir.
C'est hein. Vrai.
Mais mieux vaut Trottoir que jamais.
C'était nul à chier.
tu serais appelé Marie Trottoir, tu en aurais eu plein.
Je pense, ouais, en vrai. Mais Edith Fiac, il y en a plein aussi, en vrai.
Bah oui.
Ouais. Mais j'aime bien House of Fiac, vraiment.
House of Fiac, c'est très sympa.
C'est bien, j'en ferai peut-être jamais, mais j'aime bien. Et il y avait sinon, du coup, dans la même journée avec mon ami Cyril, où on a cherché mon nom drag, on a beaucoup cherché, puis on est tombé sur Edith Fiac, donc on s'est tapé un fou rire de 20 minutes à ce que les gens autour de nous qui marchaient dans la rue s'arrêtent pour nous demander si ça, tout allait bien. Donc je me suis dit que c'était le bon nom. Et juste avant, du coup, il y avait Edith Fiacre. C'est pas dingue, voilà. Et mon nom que j'avais les un an avant de trouver mon nom drag, c'était Chrysalix Gender. Voilà, c'est pas un jeu de mots. Donc je trouvais que ça me ressemblait pas plus que ça.
Oh, je trouve que Edith Fierck, ça te représente bien.
Edith Fierck, c'est bien. C'est vraiment genre un peu hautain et un peu irrévérencieux et un peu classe. J'aime bien.
Et c'est difficile de se faire appeler par son nom de drague. C'est tout de suite évident.
C'est super compliqué, je trouve. Encore aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à ce que les gens ils m'appellent parce que je réponds pas tout simplement. On m'appelle Edith, et puis je suis en mode ben, c'est pas moi, c'est Nathan, du coup. Donc c'est un peu compliqué de rentrer dans ce monde-là où tout le monde s'appelle par son nom drag. Il y a même des gens, je suis désolé, je vais vexer des gens, que je connais pas leur prénom, tout simplement, parce que j'ai toujours appelé par leur nom drag, et je pense que dans quelques années, ça va être pareil pour moi. Parce que bah, vraiment, tout le monde m'appelle Edith et je réponds pas souvent parce que je me souviens plus que je m'appelle Edith Fiac, du coup. Voilà.
C'est vrai que c'est marrant. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, on n'y pense pas assez. C'est qu'en fait, c'est deux personnes différentes et en même temps les mêmes. Mais au final, tu avais quand même aussi, quand tu as créé Edith, et on y reviendra tout à l'heure, c'est que tu avais aussi un compte qui était celui de Nathan Seligny, où tout le monde te connaissait sous ce nom-là, et où aussi, dans un premier temps, les gens ils te présentaient comme ça sur scène, même quand tu allais performer, parce que tu n'avais pas encore ce nom-là. Et pourquoi il était important de dissocier les deux?
Au début, j'ai commencé du coup à faire des performances en tant que Nathan Seligny. Mais après, je me suis dit que c'était compliqué déjà de porter sur scène parce que les gens l'écorchent, c'est trop long. Et puis tout simplement, c'est en dehors de ce que je fais dans la photographie. J'ai commencé à poster un petit peu des reels sur Instagram avec mes performances, etc. Mais les gens, ils comprenaient pas trop ce qui se passait parce qu'il y avait genre... quelqu'un qui faisait de la photographie, en plus qui faisait du drag, donc c'était pas très clair. Et même pour moi, c'était pas très clair parce que j'étais en mode... je fais de la photo et en plus je vais sur scène et enfin je fais tout en fait. Je connais l'envers du décor et en même temps je le photographie. Et du coup, j'ai dû dissocier les deux et c'était hyper compliqué de trouver un nom parce que je trouvais rien qui me convenait. Tout simplement. Je trouvais pas des choses assez catchy, qui passent bien, qui soient assez... Et du coup, on a trouvé ce nom-là, mais encore aujourd'hui, ouais, c'est compliqué quand on m'appelle... Enfin, c'est pas compliqué, je le comprends et je le sais, mais juste, je réponds pas parce que j'ai l'impression que c'est pas moi, en fait, tout simplement. Après, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait genre 6 mois. Donc en vrai, tout à apprendre.
Une nouvelle question de Mia.
Combien de robes as-tu ? Combien de perruques as-tu ?
J'ai pas beaucoup de robes et de perruques en vrai. Je suis pas...
Pourtant, on pourrait croire. Hein.
J'ai pas...
Parce que moi, je t'ai vu à ta soirée, la masque à drague, où tu fais à chaque fois l'introduction de l'artiste qui vient. Donc, c'est une soirée où il y avait 10, 11 artistes et tout. Et en fait, à chaque annonce des annonces d'artistes, il y avait soit une perruque différente, soit une robe différente. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était à mourir de rire. Mais vraiment, mais juste, en fait, le fait de dire « Bonjour, tiens, allez, récupère tes trucs, merci, le suivant, c'est machin. » Et en fait, à chaque fois, on se disait « Tiens, avec quoi est-ce qu'elle va arriver cette fois-ci » Et du coup, je trouvais ça très sympa. Donc, d'où la question de Mia, t'as combien de robes et t'as combien de perruques? Les robes de quinceañera, là, je te jure, des 15 ans mexicains, là, où t'es là, tu fais « Mais cette robe, elle est faite pour aller à personne. » Et toi, La perruque mal coiffée, ou pas coiffée, jamais coiffée de sa vie, plus cette robe de quinceañera, c'est incroyable. Ça te va hyper bien.
Il faut savoir que je suis un peu punk, donc c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les perruques hyper bien coiffées, hyper bien gelées. Ça ne tient pas parce que je suis trop énergique sur scène, tout simplement. Donc, j'ai pas mal de wigs maintenant. Je dois en avoir, je sais pas, une dizaine. Mais c'est des trucs, ça ressemble à des ratons laveurs, hein. Ça ressemble à rien, mais je les coiffe de temps en temps, elles sont cute, les gens me trouvent cute avec, donc bon, et puis ça m'arrive aussi de faire du drag sans wig. Et au niveau des robes, en vrai, ouais, j'ai quand même beaucoup de fringues. Non, j'ai beaucoup de fringues. Et en fait, j'utilise des fringues que j'utilise dans la vie de tous les jours en drag. Il faut savoir que j'ai vraiment du mal à mettre la barrière entre drag et out of drag parce que la plupart du temps, les gens pensent que je suis en drag dans la vie de tous les jours. Donc, mes vêtements de tous les jours, je les utilise souvent en drag et l'inverse. Donc, oui, j'ai beaucoup de vêtements. Mais c'est ma passion dans la vie, en vrai, m'habiller, donc c'est OK.
Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes tes questions. Elles étaient bien, les questions de Mia.
Oui, elles étaient trop cute. T'es trop cute. Merci.
Au revoir. Gros bisous.
Gros bisous, Mia, et merci beaucoup à toi et à tes parents, Alice et Gilles, qui t'ont permis de te poser toutes ces questions. Juste avant les questions de Mia, on arrivait donc justement à ton arrivée à Paris. Dans quelles conditions t'es venu vivre à Paris et pourquoi ?
Alors, du coup, je suis arrivé à Paris. En gros, j'ai fait des études de couture. Après, je me suis dirigé vers la broderie par les hautes coutures, donc pendant 2 ans. Donc, je sais coudre et broder. Et en fait, le problème dans les études, c'est qu'après les études, on te laisse un petit peu en plan. On te dit oui, tu vas avoir un travail, etc. Très bien, tu fais des stages sur Paris et tout, trop cool. Mais en fait, beaucoup de rêves et peu de réalité. Donc, du coup, je suis resté au chômage pendant, je sais pas, 1 ou 2 ans. Parce que je n'arrivais pas à trouver de travail, parce que tout est bouché, c'est une catastrophe dans la couture, dans la mode en général. Et du coup, je me suis dit, ma vie, ça va être aller à Auchan, tout simplement. Donc du coup, j'ai travaillé pendant 2 ans à Auchan. Donc poissonnier, traiteur, charcutier, maquillé, comme je suis maquillé d'habitude. Donc c'était un peu cool de voir les petites mamies au rayon, hyper étonnées de me voir.
J'aurais trop aimé t'avoir dans mon Leclerc de proximité.
Et du coup, c'était assez sympa parce qu'elles revenaient presque que pour moi, en fait. Enfin, genre, elles faisaient leurs courses et elles attendaient que je sois en poste pour venir me voir. Donc, c'était trop cute.
Trop mignon. Tes premières fans.
C'est ça. Et du coup, j'ai fait tout ça pendant 1 ou 2 ans. Donc, c'était hyper compliqué parce que j'étais avec des boss qui ne voulaient pas que je me maquille du tout. Et du coup, tous les jours, je venais maquiller et ma boss, elle me regardait. Et elle regardait si j'étais pas trop maquillée. Si j'étais trop maquillée, je devais me démaquiller. Donc l'enfer, tout simplement. Donc pendant 2 ans, ça a été compliqué. Je me suis battu, mais ça a été compliqué.
Tête brûlée
jusqu'au bout. Et du coup, après tout ça, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, tout simplement, mon ex. On a passé 1 an ensemble, donc ma vie était cool. Je faisais de la photo, mais j'en vivais pas encore. Mais en même temps, j'étais à la maison et je voulais absolument partir parce que j'en avais marre de dépendre de mes parents. Mais en même temps, je gagnais pas d'argent, donc j'étais un peu entre les deux. C'était horrible. Et puis, je faisais des petits boulots à droite, à gauche qui me plaisaient pas forcément. Et en fait, je me suis séparé de cette personne et je me suis dit, mais en fait, il y a rien qui me retient ici. Genre, je peux partir, rien ne me retient. Ma grand-mère venait de décéder, donc c'était la seule personne qui me retenait vraiment parce que comme elle était très vieille, je voulais vraiment être là jusqu'au bout avec elle et l'accompagner parce que c'était important pour moi d'être là. J'aime trop ma grand-mère et il fallait que je passe du temps avec elle, j'en avais besoin, et elle aussi. Et du coup, je suis parti comme ça, vraiment du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre. Je me suis dit, je prends mon ticket de train, on part et tout. Et en fait, en gros, le dilemme, enfin le challenge plutôt, c'était de partir sur Paris, trouver un appartement, de trouver un travail si la photo, ça ne suffisait pas. Et du coup, j'ai trouvé une sous-location sur Paris. Ça a duré 3 mois, j'ai eu la peur de ma vie parce que je me suis dit tous les mois, mon Dieu, comment je vais payer mon loyer déjà. J'avais des sous de côté, mais pas vraiment assez. Donc j'avais trouvé une sous-location, je suis resté 3 mois et il y a eu les 3 mois les plus intenses de ma vie pour le moment. Donc ça s'appelle Drag Race.
Je connais pas, c'est quoi ?
C'est une émission de Drag Queen.
De Drag Queen ?
Ouais.
Ok.
Il n'y a pas de Drag King encore, c'est dommage.
Et alors du coup, ces Drag Queen, elles font quoi ?
Elles font beaucoup de choses très très cool. Elles font du lip sync, de la couture, de la comédie.
Oh, c'est incroyable.
Voilà. C'est incroyable. Voilà.
Et du coup, qu'est-ce que tu as fait avec ces drag queens ? Du coup, c'est ça comme ça qu'on dit ?
C'est ça, drag queen.
Ok.
Du coup, juste avant d'arriver sur Paris, j'avais eu la chance de shooter avec Kitty Space et Sarah.
Forever.
En fait, ma belle. J'avais eu la chance de shooter avec elles pour leur look en fait de Drag Race. Il faut savoir que avant Drag Race, toutes les queens elles vont voir photographe, couturier, etc. pour préparer la saison. Donc nous, on fait, enfin moi en tant que photographe, en tout cas, j'avais du coup l'univers à créer, etc. autour des tenues. J'avais les photos à faire, les retouches, etc. Donc ça a duré vraiment des mois. Donc j'ai eu ces deux personnes qui sont venues vers moi pour faire des photos. Donc ça m'a un peu instauré dans le milieu du drag, sachant que l'année dernière j'avais fait Ellipse, mais ça a été qu'une personne dans le cast. Et du coup j'ai fait ces deux personnes, et ces deux personnes ont parlé de moi à Pounani et Rose. Et après, en fait, ça a été la dégringolade. C'est vraiment, tout le monde a entendu parler de mon travail
dans Drag Race, en tout cas France saison 2. Et du coup, j'étais en mode, oh mon Dieu, il y a tout le monde qui me commande des trucs, je sais pas quoi faire et tout. Et du coup, je suis arrivé à faire une trentaine de shootings photos pour 2 mois d'été. Donc, ce qui est hyper intense parce qu'il faut savoir que l'épisode, c'était les vendredis et que moi, je shootais la plupart du temps le mercredi. Donc, j'avais 3 jours pour retoucher 2 ou 3 shootings. Ça dépendait...
À cette vitesse-là ?
C'était intense, vraiment. Je ne dormais pas, je faisais des insomnies pour retoucher mes photos. C'était...
Ah, moi, je pensais que ces photos-là, elles pouvaient se faire entre le tournage et la diffusion.
C'est juste que j'ai pas réfléchi. J'espère que l'année prochaine, ce sera mieux si c'est le cas. Mais en fait,
si vous nous écoutez,
c'est ça. En fait,
écoutez.
Il faut faire ça en avance. Et du coup, Sarah et Kitty avaient fait ça en avance. Kitty s'est beaucoup rattrapée parce que, bah, par exemple, elle m'a fait 6 ou 7 shootings pendant que la saison sortait. Donc, c'était hyper intense. Et du coup, bah, j'ai fait ça pendant 2 mois, ouais, une trentaine de shootings. Et du coup, après, j'ai trouvé un appartement avec mon colocataire Warren. Et maintenant, ça fait 6 mois que je suis sur Paris, que je fais de la photographie pour des pubs, pour des drags, etc. Et puis que je fais du drag à côté.
Eh ben, je te souhaite d'en faire autant, si ce n'est plus pour la saison 3, mais d'avoir des drag queens, c'est ça, tu disais, des plus organisées.
Queens, ouais, c'est ça.
Et du coup, on va parler de toi. Quel est ton rapport au drag ? On va dire ton histoire avec le drag. Quand est-ce que tu as découvert ça ?
J'ai été voir mon premier spectacle transformiste. Bon, j'en avais déjà vu à la télé en vrai. Mais que j'ai vu en vrai, c'était le Rebecca Show, donc en Lorraine. Donc vraiment, il y avait la campagne et une salle de fête. Et c'était dans cette salle de fête-là. Donc avec mes parents, c'était trop trop cool. On s'est vraiment trop amusé. Et de voir que mes parents... C'est quand même incroyable, ça. C'est mes parents, ils kiffaient voir cette meuf sur scène qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Dalida performer, alors que moi, dans la rue, tous les jours, en robe et en make-up, c'était pas OK, tu vois. Donc j'étais en mode, mais pourquoi ? Bref, question à part. Mais du coup, ouais, on a fait cette soirée-là où il y avait Rebecca Shaw et c'est la première transformiste que j'ai vu, du coup drag queen transformiste que j'ai vu ever, et du coup ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis vraiment dit que c'était possible d'en vivre parce que cette personne en vivait et je pense bien, donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est amené à moi. Et puis après, bah, comme tout le monde, j'ai vu Drag Race, etc., les premières saisons. Je crois que j'ai commencé à la 6 comme tout le monde quand c'est sorti sur Netflix. Et du coup, je me suis mis à ça, c'était cool, j'ai bien aimé. Après, je trouve qu'il n'y a pas assez de représentation en général dans Drag Race. C'est ça qui manque un petit peu. Il n'y a qu'un type de drag et j'aimerais bien voir d'autres choses. Mais ça m'a amené vers ça. Et j'étais en mode,
c'est-à-dire, est-ce que tu arriverais à mettre des mots dessus sur quel type de drag il te manque dans Drag Race ?
Bah, je pense que j'aimerais voir déjà plus de queens racisées, plus de queens grosses, des drag kings. J'aimerais bien voir des monstres, des créatures, des. Plus de personnes transgenres, avoir plus de diversité en général, parce qu'en fait, je pense que Drag Race, je vais un peu être shady, mais Drag Race, c'est 1% du drag. Enfin, vraiment, si vous voulez voir du drag, bah, venez voir du drag en vrai, parce que Drag Race, c'est 1% du drag, c'est vraiment...
C'est une émission de télévision.
C'est ça, on effleure la surface du drag.
Mais c'est une belle intro. Enfin, c'est intro au drag.
En vrai, moi, ma mère a regardé Drag Race et tout, etc. On a suivi ensemble parce que comme je faisais les photos, du coup, je lui dis « Ah, regarde et tout, machin. » Alors déjà, elle avait rien compris parce qu'elle pensait que j'étais dedans. Donc, tu ne comprends rien, maman.
Et alors toi, pour citer Tounames, à quel moment tu t'es inscrite au drag ?
Alors j'ai commencé du coup il y a un an et demi même maintenant, et en fait je suis photographe, donc je faisais une exposition photo et j'ai fait beaucoup d'expos et tout machin, et un jour en fait j'étais à une soirée exposition entre gros guillemets à Metz qui s'appelle, le bar s'appelle Les Frigos, donc c'est un grand truc en extérieur avec un chapiteau de cirque. Et en fait, il y avait souvent des scènes ouvertes, etc. Nanana. Donc moi, ça ne m'intéressait pas trop parce que j'étais hyper crispé sur le fait d'être sur scène, tout simplement. Ça me cringeait de ouf. J'aime beaucoup performer. Il faut savoir que j'ai passé des heures et des heures à faire des lip-sync devant mon miroir et à me prendre en vidéo avant que TikTok apparaissent. Les stories sont encore visibles sur mon Instagram. Bref. Et du coup, ça faisait des années et des années. Et je pense que, en vrai, je suis né, j'étais déjà drague, j'ai toujours dansé, j'ai toujours chanté. J'allais de la cuisine au salon pour ramener les assiettes en dansant et en chantant. Et ça a toujours été comme ça avec mes parents. Et du coup, bah, y a eu cette soirée-là. Et ils m'ont dit, ah, mais pourquoi t'essayerais pas et tout, etc. J'étais en mode, c'est hyper stressant. Non, c'est pas pour moi et j'aime pas être devant des gens et tout. Et en fait, j'ai fait cette soirée quand même. On m'a un peu forcé. Et j'ai fait cette soirée. Ça a duré, je crois qu'il y avait un mois entre l'annonce que j'allais participer à cette soirée et la soirée. C'était les un mois les plus intenses de ma vie parce que j'étais en mode, mon Dieu, ça va arriver, mon Dieu. Et du coup, je suis arrivé le jour J. J'étais mais stressé comme Jaja. Je tremblais, je sueur, j'étais pas bien. Et j'avais pas encore mon apparence drague. J'étais vraiment très femme, très... basique entre guillemets, comme je me maquillais tous les jours en fait, c'était moi mais juste avec un corset, donc voilà. Et du coup j'ai été sur scène, j'étais tremblante, sueur, malade en fait, de stress. J'ai fait ma perf, je me suis mais libérée comme jamais, je crois que j'ai jamais été comme ça, cette adrénaline de scène. J'ai fait mais des trucs que je pensais pas être capable de faire sur scène tout simplement, et je suis sortie de là mais j'étais dans un... Je me suis posé, j'étais tout en sueur, c'était horrible. Et tout le monde m'a dit oh, c'est trop cool, on n'a jamais vu une drague qui venait de commencer à faire ça, machin, c'est trop cool, c'est trop bien et tout. J'étais en mode genre, j'ai fait un truc de ouf et tout, j'ai vu les vidéos, j'étais hyper fier de moi. Et du coup, ça a commencé comme ça et après, ça s'est tout de suite enchaîné. J'ai refait un mois après une scène au même endroit et puis après, c'est parti comme ça. Quoi.
Donc, tu as vite pris goût, quoi.
Malheureusement.
Malheureusement, pourquoi?
Non, c'est heureusement, c'est cool. Je me sens bien sur scène. Je crois que je me sens. Il y a peu de moments que je. Enfin, il y a peu de moments auxquels je me sens aussi bien que sur scène.
Tout à l'heure, tu disais que tu as trouvé au fur et à mesure ton make-up, ton look et ta manière de t'identifier. Un, à quoi ça ressemble? Deux, comment t'as réussi à trouver ce style très, très particulier de make-up? Clairement, on t'a vu, on te reconnaît tout le temps.
Alors, j'ai commencé... En fait, ça a commencé quand j'ai commencé le drag. Sur scène, j'allais avec mes make-up de tous les jours. Donc vraiment, comme si je me maquillais dans la rue, j'allais sur scène. Et ça me gênait un peu parce que j'avais pas trop de distinction entre moi et moi. Parce qu'en fait... Bref, éditez-moi, quoi. Moi et moi. Et du coup, je me suis dit qu'il faut que je trouve quelque chose qui soit un peu plus... qui maille sur scène et avec la lumière, etc. Quelque chose d'assez... Et j'ai toujours été hyper intéressé par les clowns. J'ai très peur des clowns, mais le visuel du clown, j'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit, on va chercher. J'ai cherché pendant un an, je ne trouvais pas. J'étais vraiment désespéré. Quand j'ai trouvé mon nom drag, j'étais désespéré. Et du coup, je suis arrivé sur Paris, donc à la même période où j'ai commencé les shootings pour Drag Race, etc. Et j'ai fait, en fait, ma première scène... c'était concours scène au marché drag.
Ouais, scène ouverte, organisée par Ghost Electra.
C'est ça. Et du coup, j'ai fait ce concours avec un make-up vraiment moi tous les jours, encore une fois. Et après ça, je me suis dit, mais attends, mais il faut que je cherche quelque chose, etc. Et j'ai commencé à me maquiller presque tous les soirs pour chercher un make-up et tout, etc. Et je me suis dit, j'aime beaucoup les trucs un peu colorés, mais vraiment très colorés. Donc j'ai commencé à mettre des fards un petit peu roses et j'aime beaucoup le fard à joues très intense quand je fais ça quotidiennement. Donc je me suis dit, je vais le faire sur le front et tout. En fait, il faut savoir que mon make-up, c'est David Bowie, Marilyn Manson, Boy George. C'est un gros mélange à clown, Nina Hagen, punk. C'est vraiment un gros mélange de plein de références. Et du coup, j'ai commencé à faire ce dégradé en fait sur mon front. Et je me suis dit c'est cool et tout machin. Donc j'ai fait le liner et tout machin. J'aimais bien faire des liners assez symétriques à l'époque en boy. Du coup, j'ai testé sur mon make-up et je me suis dit ça va pas. Il y a un truc qui manque et tout. C'est beau, mais c'est pas moi. Et du coup, j'ai fait cette grosse barre de blanc hyper intense. Et voilà. En fait, ça s'est fait un peu succinctement, on va dire, et en un mois, j'ai trouvé mon mon drag, enfin mon make-up drag en fait.
Et ce tribal, tu l'as trouvé comment? Ce tribal,
je sais pas d'où ça vient. J'ai tout. En fait, ça a commencé à la poissonnerie, du coup.
Ah ouais.
En fait, j'ai commencé déjà à faire des formes comme ça de make-up quand je travaillais à la poissonnerie, parce que j'aimais bien changer de make-up tous les jours. En fait, tous les jours, pour faire chier mes boss parce qu'ils voulaient pas que je me maquille. Tête brûlée jusqu'au bout, ma belle. Du coup, en fait, la veille, elle me disait, bon, c'était trop make-upé, demain, tu faisais un peu moins make-upé, le lendemain, je venais encore plus make-upé. Et du coup, tous les jours, je changeais de couleur et de forme, et je faisais toujours un petit peu ces traits comme ça, comme je me suis rasé les sourcils, du coup, je peux me permettre de faire des trucs un peu what the fuck. Et du coup, ça a commencé là, et j'ai repris ça que j'avais fait il y a un ou deux ans en arrière. Je me suis dit, ah, c'est cool et tout machin. Et j'aime bien ce truc hyper symétrique, un peu monstre. Enfin, on ne sait pas trop ce que t'es. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont un peu hypnotisés par les formes utilisées et que ça fait un truc très intense.
Oui, et puis chacun y voit ce qu'il veut. Moi, c'est vrai que je te l'ai déjà dit, je vois un oiseau. Je ne sais pas pourquoi je vois un oiseau.
Slay l'oiseau.
Bah, slay, un oiseau qui slay de...
Un oiseau pailleté, en fait, m'appelle.
Et tu disais qu'il y a un truc qui est assez difficile pour toi, c'est réussir à diviser ces deux identités qui sont toi. Est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus?
C'est super compliqué parce que j'ai l'impression en fait que c'est toujours la même personne. Il y a mon coloc du coup Warren qui m'a dit la dernière fois, ah mais t'es très différent en drag de out of drag. Et je lui ai dit mais non, c'est pas vrai. Enfin genre vraiment l'attitude, je joue pas de personnage quand je suis en drag, je suis vraiment moi-même. Et je suis pas plus moi-même ou moi-même. Et en fait, je me rends pas compte, je suis juste tout le temps moi et j'arrive pas à dissocier les deux. Et j'ai l'impression que c'est juste la continuité de moi-même et que je parle. En fait, quand je parle à quelqu'un out of drag ou en drag, c'est la même chose. On est bien d'accord.
Comment?
On est bien d'accord.
Bah, je pense que... Alors, t'as envie que je dise oui?
Bah, j'en sais rien. Dis-moi ce que t'en penses.
Parce que moi, je dirais... que t'as une énergie différente. On voit que c'est la même personne, mais t'as un côté beaucoup plus frénétique et euphorique en drag. Il y a un côté genre vraiment tout a l'air hyper intense dans ce que tu vis et dans ta manière de discuter avec les gens. Plus que là maintenant, mais c'est deux contextes complètement différents, donc c'est pas. C'est...
Ah, mais je m'en rends même pas compte.
Mais en fait. C'est vrai qu'en drag, t'as un truc et tout. Et alors, pour avoir aussi discuté avec toi quand tu te mets out of drag, et ben c'est marrant, t'as l'impression que ce truc redescend en même temps que tu t'enlèves le make-up.
Ok.
Mais une fois de plus, c'est mon ressenti, mais tout, ça ne veut rien dire. Hein. Mais
justement, j'essaie d'avoir un peu de retour sur ça.
Quand je te pose cette question-là, c'est que c'est pas. Bien ou mal,
il
enfin,
y a des gens qui le font.
Ouais, c'est pas très passif.
Moi, je vis très, très bien avec. Hein,
mais c'est vrai que t'en parles beaucoup. C'est vrai que ce truc-là. Parce que t'en as certains qui, pour eux, oui, c'est vraiment un prolongement de leur personnalité. C'est la même personne, c'est machin. Mais toi, j'ai l'impression que ça te questionne un peu, tu vois. T'en as parlé, tout le monde.
C'est juste, ça me questionne même pas. C'est juste les gens qui me posent la question. Du coup, ça me fait me questionner. En fait, toute ma vie, on m'a posé plein de questions comme ça sur mon genre, mon attitude, sur mon machin, sur mon truc. Et c'est les questions des gens qui m'ont fait me questionner. Sauf que de base, je ne me pose pas de questions, enfin, je vis juste ma vie. Et en fait, c'est ce truc de... Bah, je voyais beaucoup d'interviews et tout, où les gens disaient... d'ailleurs, le podcast, où les gens disent c'est pas du tout la même personne, etc. Alors que moi, ça m'arrive souvent que les gens me rencontrent dans la rue out of drag et qui me disent, mais tu vas où? Rien, je fais ma vie. Mais du coup, pourquoi t'es... parce que...
D'ailleurs, la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai dit, dis donc, tu t'es apprêté pour notre rencontre. Enfin, non, c'est mon quotidien. Ça, je l'ai fait en 10 minutes, hop. Et c'est vrai que ouais.
En fait, aujourd'hui, j'ai failli me maquiller, tu vois, alors que je sors pas de chez moi. Mais je me suis dit, bon.
Bon, non, ça va.
Un peu la flemme.
Bon, et t'as bien raison. Tu parlais de tes parents qui t'ont quand même... t'as un rapport quand même très proche avec ta famille. Le fait, le drag, est-ce qu'ils te suivent aussi dans ces aventures-là?
À ma grande surprise, en fait, je crois que c'est plus moi qui ai eu du mal avec le fait que mes parents adhèrent à ça. Parce que j'étais en mode, c'est encore un truc qu'ils vont détester profondément. Pas forcément détester, mais en mode, pas accepter tout de suite et que ça va être encore... une épreuve de plus. Et en fait, c'est ma mère qui me demande tout le temps des vidéos, des photos, etc., de mes performances. Ils sont déjà venus me voir performer au frigo pour mes premières performances. Et du coup, moi, je suis un peu en mode... C'est un peu mon cocon à moi de... Je suis à Paris et je fais mes trucs. Et ça me fait un peu stresser en mode... oui, si tu veux, pas de souci. Mais du coup, ma mère me pose souvent la question, pourquoi t'es tout le temps à poil? Et en fait, j'envoie presque des nudes à ma mère parce qu'en fait, sur scène, je suis souvent à poil. Je suis un peu en mode... Waouh, genre, c'est un peu intense pour moi de montrer cette facette-là de moi. Même si, en vrai, ma mère m'a toujours aidé pour faire mes essayages, mes costumes, etc. Parce que, bah, comme je suis couturier, je fais des fois des costumes. Et elle m'a déjà vu cul nu parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'hyper personnel, le drag, pour moi.
Est-ce que le fait aussi que toi-même, tu sois en construction de ton drag, que tu te poses des questions, que tu avances, et aussi que tu t'interroges au fur et à mesure que tu crées ton personnage, tes performances, fait que tu n'as peut-être pas forcément tout de suite les réponses à apporter à ta maman parce que tu es toi-même en construction?
Sachant qu'en plus, en ce moment, je suis en gros questionnement de est-ce que je continue le drag ou pas.
Pourquoi tu te poses des questions sur ton avenir dans le drag?
Je sais pas. Je sais pas si je suis vraiment drag ou pas. Je pense que je fais du drag, je ne sais pas. Je sais pas si je me considère plus comme un performer ou comme un drag. Parce qu'en fait, quand je vois le drag autour de moi, je me dis que c'est très futile. Des gens font du drag et c'est très futile. Et je veux pas shader ou donner des noms, je m'en fous. J'ai bien envie de voir dans quelques années qui sera encore là et qui sera plus là. Tu vois. Je vois qu'il y a des gens qui font du drag pour la célébrité et le succès. Moi, je fais du drag parce que c'est dans mes tripes. Parce que j'en ai besoin pour vivre. La photographie, j'en fais parce que j'en ai besoin pour vivre. C'est viscéral, en fait. Si je fais pas du drag ni de la photographie, je suis malade, je suis pas bien. Je sais que je suis né pour ça. Pas forcément pour briller, mais pour faire ça. Pour faire du drag, pour créer en général. Et en fait, ça m'embête un peu d'être entouré de gens, en fait, qui ne réfléchissent pas au passé de la communauté LGBT, donc tout ce qu'il y a derrière tout ça, parce que c'est très politique tout ça, et qui font ça très futilement et sans aucune réflexion, en fait. Bon, c'est bien de te taper la chatte par terre en grand écart, c'est cool, hein. Slay et tout, work mama, travail maman, les bottes sont en bas de la maison.
Les bottes sont en bas de la maison?
Apparemment, c'est une expression anglaise que moi, j'ai juste la traduction française, donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire en anglais, mais je le dis quand même.
Ok.
The boots, nanana, I don't know.
Ok, pardon.
On m'a dit une fois ça, et la traduction en français, j'ai dit c'est très drôle, je vais garder la traduction en français, j'ai oublié la version originale.
Donc oui, non, pardon, du coup, je t'ai interrompu.
T'inquiète. Mais
Mais t'as l'impression qu'en fait, si tu veux, c'est qu'il y a la popularité du drag en ce moment fait aussi un peu oublier le sens.
Le message.
Tout le message.
En fait, moi, c'est même pas le drag en général, mais c'est même le monde de l'art par rapport à Instagram, surtout. Enfin, à tous les réseaux sociaux, etc. J'ai l'impression que tout se dilue. Les gens, ils essayent même pas de faire de nouvelles choses. Ils essayent de ressembler à quelqu'un qui existe déjà, ou à faire des moodboards, ou à faire des machins, ou à essayer le make-up de quelqu'un. On m'a déjà volé mon make-up. J'étais en mode, mais meuf, en fait, j'ai pas passé un an de réflexion intense pour que tu fasses le même make-up. Comment ? Fais autre chose, en fait. Sois intelligente. Et c'est cool de rendre hommage à quelqu'un et tout, etc. Mais juste fais autre chose. Crée toi-même. T'es capable de créer des choses. Et je suis d'accord et tout que tout le monde peut faire du drag, clairement, et que ça fait du bien de faire du drag. Et vas-y, éclate-toi, fais-le pour le plaisir. Mais à un moment, tu peux pas oublier tous les combats qu'il y a derrière. C'est pas possible. Donc, renseigne-toi. Fais ça pour les bonnes raisons. Fais pas ça pour la célébrité, parce qu'en vrai, ça arrive à une personne sur je sais pas combien. Et juste crée et fais de nouvelles choses et essaye de pas ressembler aux millions de drags qui y a à côté, qui font toute la même chose, quoi, en fait. C'est ce truc incessant de copie permanente, en fait. Du coup, j'ai fait une petite liste pour la fin de l'interview pour dire toutes les dragues et tout machin. Mais en fait, il y a beaucoup de dragues aujourd'hui qui me réconfortent et qui me disent que tu peux continuer parce qu'il y a quand même des gens qui sont un peu chelous, un peu bizarres et qui essayent de nouvelles choses et qui, je sais pas, qui, quand tu vas les voir sur scène, ils te donnent des émotions, des sensations, des sentiments, tu vois.
Je comprends complètement ce que tu dis. Mais après, pour moi, il y a aussi plein de choses où j'ai envie de dire... ça peut prendre son temps, tu vois. C'est que la première fois, qu'on se met en drague? Est-ce que la première fois, on a tout de suite le message qu'il y a derrière? Est-ce qu'on a envie de le raconter? Tu vois, et je pense que peut-être certaines personnes vont aussi arrêter au fur et à mesure en disant, bon, bah, en fait, c'était une période, c'était une mode, parce que aussi, quand quelque chose qui devient populaire devient aussi à la mode, et comme être émo à une époque, comme... Non, mais je pense qu'il y a vraiment, oui. Il y a vraiment aussi un peu de ça là-dessous. Et après, il y en a d'autres qui sont... des artistes, c'est-à-dire il y a des artistes qui viennent raconter des histoires, et peu importe la manière dont ils le racontent, qu'ils soient en king, en créature, de peu importe de quel courant ils se réclament, ils ont quelque chose, un message à délivrer. Et t'en as d'autres, bah c'est plus l'effet de mode et tout, c'est cool, c'est autre chose. Mais pour moi, il y a encore un univers qui est incroyable à découvrir, à développer. Oui,
bon, il y a des cabarets genre Madame Arthur. Incroyable.
Madame Arthur, qui, le secret aussi.
Qui se renouvelle. Mmh. La Bouche Cabaret, ouais. Le Cabaret des Poussières, de Poussière, ouais. Qui sont incroyables et qui se renouvellent à chaque fois et qui prennent de nouveaux artistes tout le temps. Et je trouve ça intéressant, justement, d'aller sur de nouveaux thèmes, d'être transgressif aussi, parce qu'en fait, l'art et l'art du drag, c'est très transgressif. On est toujours en dents de scie, on n'est jamais... Enfin, même par exemple, moi je me balade souvent en drague dans le métro, etc. Et je trouve ça important justement que ça ne perde pas le message principal du drague et de l'art en général, d'ouvrir les yeux aux gens et être transgressif et brûler les barrières qu'il y a et s'ouvrir en fait au monde et s'ouvrir à tout quoi. C'est juste que si tu choisis de faire du drague, renseigne-toi, il y a une histoire derrière.
Très chère Edith, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Et du coup, c'est le moment des recommandations. Est-ce que tu as des choses à recommander? Oh là là, mais il y a un petit papier qui a été avec des lignes et tout. Des gens...
Ah non,
les gens bossent, hein, vraiment. Hein. C'est-à-dire que vraiment, je suis hyper impressionné. Il prend ce concept, hein, il prend. Hein.
J'ai écouté Miroslav hier, du coup. Et elle avait fait un papier, j'ai fait un papier, du coup. Je me suis dit que c'était plus...
C'est bien,
j'ai vraiment fait une liste élèves. De courses, ma belle.
Ah ouais, c'est... Waouh, allez, let's go, c'est parti, papier-crayon.
Mes petites recommandations. Pour les films, en ce moment, il y a Poor Things, donc Pauvre Créature au cinéma, qui est incroyable. C'est un film de ouf avec Emma Stone. Il est dinguissime, genre vraiment. Il y a aussi Everything Everywhere All At Once, qui est oufissime, qui est sorti il y a longtemps, mais il est juste... dinguissime aussi, c'est des univers de ouf.
Ah ouais, c'est bien barré avec Michel Yeo. Ouais, non, c'est dingo. Enfin ouais.
C'est dingue.
Everything Everywhere All at Once. Incroyable.
Et du coup, je vais faire des recommandations drag surtout parce que j'ai envie que mes copines se fassent booker.
Let's go.
Du coup, il y a Masha Kills qui est incroyable. C'est une drag burlesque qui fait des choses de ouf malade. Donc allez suivre sur Instagram. Il y a Mistizi. Du coup, notre pote russe qui est oufissime aussi, qui est créature monstre, on ne sait pas, je l'adore. Et sinon, il y a Miroslav Toi les mains, du coup, qui était dans l'interview il n'y a pas si longtemps que ça. Vous le connaissez maintenant. Il y a la Capitaine Grimm, bien sûr, qui est oufissime, qui fait des costumes aussi. Il y a son compte de costumes qui s'appelle Drapeau Blanc, donc s'il y a des drags qui veulent des costumes, allez-y. Il y a Vilaine qui est oufissime, qui a été à la Drag Me Up du coup l'année dernière,
qui fait du drag horreur, ouais. Très flippé, hein. J'adore, mais très, très mal au ventre quand même, hein. Mais très super.
Mon amour pour elle. Il y a Sato Maggio qui vient de débarquer du coup en France, qui est oufissime, qui fait des saltos, des pirouettes, du lip-sync de ouf, qui est très drôle, je l'adore. Et il y a Mona Ladol aussi du coup.
Incroyable.
Mona Ladol qui est une artiste berlinoise qui a débarqué sur Paris, donc vraiment bookez-les. Tous et toutes, ils sont incroyables. C'est des artistes de ouf.
Bah dis donc, c'est des bonnes recommandations, ça.
C'est des bonnes recommandations. Et surtout, je veux pas shader les autres. Hein. C'est vraiment les découvertes, là. Hein. Les autres sont très, très cool aussi.
Évidemment, évidemment. On a parlé de plein de choses. On a parlé de plein de shows, de plein de soirées mensuelles ou bimensuelles et tout. Ça veut pas dire que celles dont on ne parle pas ne sont pas bien. C'est juste les premiers exemples qu'on a trouvés. Vous inquiétez pas, vous faites un travail merveilleux, j'en suis certain. Bravo, félicitations à vous.
Slay.
Bon, c'est la fin de cette émission. Est-ce que ça t'a plu? Edith?
Non.
Est-ce que tu recommandes?
Non.
Bah voilà. Eh bien, merci beaucoup, Edith, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Quinterview. Tu changes pas d'avis, hein? T'es sûr que tu veux rester sur Non?
C'était horrible.
Ouais, ok. En attendant le prochain, si vous... T'es sûr, hein?
J'ai pleuré des larmes de sang.
Ok. Si vous avez aimé... Bon, bah du coup, pas Edith. Si vous avez aimé, bah likez le podcast, abonnez-vous. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous. Et à bientôt pour une prochaine Quinterview. Bye bye.
Bye, bitches.
Bisous.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.